Radio Prague, les informations.
Première journée de la visite du prince de Galles en République tchèque. Une manifestation contre l'avortement a eu lieu au centre de Prague. Les habitants de Panenské Břežany se sont opposés à la construction d'un aéroport. Charles, prince héritier de Grande-Bretagne, et son épouse Camilla sont arrivés en République tchèque pour une visite de 4 jours. C'est déjà la 5e visite du prince de Galles en Tchéquie, tandis que la duchesse Camilla visite notre pays officiellement pour la première fois. Après leur arrivée, Charles et Camilla ont été reçus au château de Prague par le couple présidentiel Václav et Livia Klaus. Un défilé contre l'avortement est passé dans l'après-midi de ce samedi par le centre de Prague. La manifestation a été organisée par l'association Un outil Proživot, mouvement pour la vie qui s'oppose à la loi sur l'avortement en vigueur en République tchèque. Selon les organisateurs, y ont participé près de 1000 personnes. Les habitants de la commune de Panenské Břežany près de Prague ont rejeté dans un référendum la construction d'un aéroport international à Vodochody près de Prague. 72% des habitants de la commune ont participé à ce référendum et 95% des participants se sont opposés à l'élargissement de l'aéroport déjà existant à Vodochody. La société British Airways supprimera encore 2 vols mardi et mercredi sur la ligne reliant Prague et Londres. Cette mesure est nécessaire à cause de la grève du personnel de bord de la société britannique. Une information de l'attaché de presse de la société Roman Pacvoň. Le conseil municipal de la capitale tchèque a approuvé un décret permettant de réduire la publicité dans le centre-ville qui est une réserve historique. Les conseillers ont constaté que la publicité grand format ne sert parfois aux propriétaires des maisons qu'à cacher l'état délabré de la façade. Les différents quartiers de Prague et les organes touchés par ce décret seront maintenant invités à se prononcer sur ce projet. Ces jours-ci ont été inaugurés à Prague des foires de printemps. La plus grande foire se trouve sur la place de la vieille ville. De nombreux Pragois et touristes peuvent y assister à des productions musicales, peuvent y acheter des produits artisanaux et des spécialités culinaires tchèques dans de nombreux stands qui y ont été dressés. Les visiteurs y peuvent voir aussi un petit troupeau de chèvres et de brebis, animaux typiques de villages tchèques que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent presque pas. Météo, ce samedi, fête de toutes les Svetlana, selon le calendrier tchèque, le temps en République tchèque est nuageux à variable et les températures diurnes varient de 11 à 15 degrés pour les maximales. Dimanche, le ciel en Tchéquie sera nuageux à couvert et il pleuvra par endroits. Les températures diurnes se situeront entre 12 et 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Les contes de E.T.A. Hoffmann, père du romantisme allemand, ont subjugué beaucoup de lecteurs et inspiré beaucoup d'artistes. Parmi ceux qui ont subi le charme de ces petits chefs-d'œuvre de littérature fantastique se trouve le compositeur Jacques Offenbach et aussi plus près de nous, le chef d'orchestre français Michel Sierczewski. C'est à ce dernier que le Théâtre National de Prague a confié la direction musicale de la nouvelle production de l'opéra « Les Contes d'Hoffmann » de Jacques Offenbach, dont le librettiste Jules Barbier avait non seulement utilisé les motifs tirés de l'œuvre de Hoffmann, mais avait fait de l'écrivain romantique aussi le personnage principal de l'opéra. Pour Michel Sierczewski, il s'agit de la première grande production réalisée au Théâtre National. Il a évoqué cette collaboration, mais aussi son rapport vis-à-vis de Hoffmann et d'Offenbach au micro de Radio Prague. Voici la seconde partie de cet entretien.
Bessou, qui avait été responsable du choix des chanteurs, de la distribution pour cette production du Théâtre National?
Non, c'est principalement le directeur artistique IAG Hergemann. Alors, on a bien sûr été en concertation. Moi, j'étais en particulier ravi que ce soit Marc Lao qui chante Hoffmann, parce que il n'y a pas de meilleur Hoffmann à l'heure actuelle. C'est une voix très spéciale. C'est vraiment une voix de ténor français. Souvent, j'ai vu des productions des contes d'Hoffmann où tout le monde hurlait sur scène, parce qu'on a l'impression que c'est un rôle très lourd. En fait, il faut le chanter, il faut retrouver, connaître le style du chant français du 19e siècle pour le faire bien. Et Marc le fait d'une façon idéale. D'autant plus que, bien sûr, le français est absolument parfait. C'est le Hoffmann idéal à l'heure actuelle, sûr.
Est-ce qu'il y a parmi les autres chanteurs qui ont participé à cette distribution aussi des personnalités qui se rapprochent de l'idéal?
J'ai été très séduit en particulier par l'Antonia de Cathy Van Buten. Au départ, quand elle est arrivée, bon, elle connaît très très bien le rôle, mais pour moi c'était un peu américanisé, c'est-à-dire un peu sur le ton du mélodrame, qui pour moi est un contresens un peu vis-à-vis d'Antonia. Donc je l'ai orientée, par exemple dans la romance, quand elle démarre le troisième acte des contes d'Hoffmann, l'acte d'Antonia, elle a fui la tourterelle, c'est quelque chose qui doit être justement très fugitif, comme une mélodie de forêt, sans affectation. C'est très difficile pour un chanteur non français de comprendre que ça doit être chanté sans affectation, de faire comme ce que Ravel disait, c'est-à-dire que la non-expression donne l'expression et les couleurs de l'orchestre ou la couleur vocale, le phrasé exact donne l'expression et l'émotion. Et je pense qu'elle est très bien arrivée, on a beaucoup travaillé ensemble et elle est très bien arrivée à ça. Et j'ai été aussi très séduit par le Coppelius qui est Donny Ray Albert, vraiment, parce que ce qu'il fait n'est pas appuyé, ce n'est pas caricatural. C'est quelque chose qui passe dans le double sens du texte, dans la couleur vocale, dans le phrasé aussi. Et on arrive à des situations dramatiques même beaucoup plus fortes que quand on fait des effets de voix ou quand on pousse sa voix au maximum et qui ne sert absolument à rien dans la musique française.
L'opéra est chanté en français. Avez-vous été content du niveau du français des chanteurs ?
J'ai travaillé énormément avec tout le monde sur la diction, surtout sur la, d'abord, au-delà de la diction, pour moi, ce qui est très important, c'est la compréhension du texte, y compris quand il y a des doubles sens. Il y a certains chanteurs que j'ai pris en charge dès le mois de juin de l'année dernière. On a organisé aussi des sessions de français à l'Institut français de Prague. Très gentiment, nous a offert un professeur. Après, il y a encore eu des sessions très intensives en décembre. Le groupe qui s'est le plus investi au niveau du français, c'est le chœur. Là, je voudrais rendre hommage à Martine Pouchelin, qui est le chef de chœur, le jeune chef de chœur, qui parle parfaitement le français. On a fait un très beau travail ensemble. Le français du chœur était vraiment très bon, très bon. Alors après, au niveau des rôles solistes, alors il y en a certains qui sont énormément investis, qu'on comprend avec leur couleur vocale propre. Je pense que ceux qui se sont le plus investis, on arrive à peu près à comprendre 40% de ce qui est dit. Mais pour moi, c'était déjà une belle expérience de les voir s'investir dans cette langue qui est si belle.
Comment s'est déroulée cette coopération avec le Théâtre National? Est-ce qu'il y a eu, pendant la préparation de cette production, des problèmes auxquels vous vous êtes heurté?
Moi, je dois dire que j'ai vu travailler les équipes par exemple, les équipes techniques du Théâtre National sont des gens absolument formidables. Si je compare, par exemple, avec l'Opéra de Paris, mais c'est presque le jour et la nuit. Quand on voit les productions qui tournent en permanence avec les changements de décor, les changements de plateau, et tout le monde travaille, le chœur, l'orchestre, je me suis très, très, très bien entendu avec l'orchestre. Disons, ils se sont tout de suite mis en immersion dans ce que je leur demandais de faire. C'est une œuvre très difficile pour l'orchestre, où il faut acquérir des réflexes de couleur, de réactions vis-à-vis du jeu sur scène qui sont extrêmement rapides et je me suis vraiment très bien entendu avec eux. Bien sûr qu'il y a eu des tensions, mais c'est normal avec une production de cette envergure. Faut pas oublier que c'est quand même une œuvre assez démesurée puisque on arrive à 4 heures de spectacle avec 3h15 de musique jouée.
Auriez-vous envie maintenant, avec l'expérience que vous avez, de poursuivre cette collaboration avec le Théâtre National? Auriez-vous par exemple un autre opéra qui pourrait entrer sous votre direction au répertoire du Théâtre National?
Alors, je pense immédiatement à deux opéras qu'il faut absolument faire à Prague. L'un, c'est mon opéra préféré de tout le répertoire d'opéra, qui est Péléas et Mélisande. Je crois que ça n'a pas été fait depuis 1908, d'après ce que j'ai compris. Et puis bien sûr le dialogue des Carmélites, je pense, de Poulenc, ce serait deux ouvrages vraiment très importants à mettre au répertoire du Théâtre National. Mais je pense que j'essaierai de convaincre Jerzy Hergemann de faire autrement pour la, d'abord pour la distribution des rôles et surtout pour l'enseignement des rôles aux chanteurs de l'ensemble du théâtre. Je partirais de façon différente. Pour moi, l'idéal, ça serait que, par exemple, pour Péléas, qui demande vraiment une distribution française, de réunir effectivement une distribution française et que chaque chanteur français prenne en charge un chanteur tchèque de l'ensemble. Il y a une chose qui s'est passée sur les contes d'Hoffmann à propos du second ténor, donc qui est Valentin Prolat. Je le connaissais avant. Il a vraiment été pris en charge par Marc Lao. Il a fait des progrès extraordinaires au niveau du style de chant français. Vraiment extraordinaire. Je dois lui rendre hommage aussi parce qu'il s'est vraiment investi d'une manière incroyable. Il ne peut pas arriver au résultat de Marc Lao. Il faudrait des années. Mais franchement, le travail qu'il a accompli est formidable. Et ça m'a donné l'idée, si jamais on refait une production d'opéra français avec moi au Théâtre National, de dire que chaque rôle pris par un chanteur français, le chanteur français a la responsabilité de transmettre ce qu'il sait, son expérience, au chanteur tchèque. Je pense que ça serait vraiment une collaboration, en plus culturelle, extraordinaire, avec la création d'une complicité qui pourrait faire date. Et la deuxième chose au niveau du travail des chanteurs tchèques, c'est de ne pas démarrer l'enseignement du rôle avec une langue écrite en phonétique, sans comprendre, mais de leur donner tout d'abord le texte en français avec la traduction tchèque, de s'investir déjà dans le rôle comme un acteur, sans musique, et ensuite, une fois que le texte est bien compris, aborder l'étape de la prononciation. Quand on commence avec la phonétique, on commence à l'envers. On parle d'une quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. On peut faire des contresens énormes, et après c'est très très difficile de corriger.
C'était la seconde partie de l'entretien avec le chef d'orchestre Michel Sierczewski sur la récente première de l'opéra Les Contes d'Hoffmann au Théâtre National de Prague. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irina Viernochova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Maintenant que vous savez tout sur les cochons, élargissons nos horizons et accueillons donc le printemps. Oiseaux, vaches, veaux et grenouilles sont à l'honneur pour un nouveau tchèque du bout de la langue, Animal. Commençons par nous mettre à la place des animaux et efforçons-nous de nous placer de leur point de vue, de leur perspective. Vous avez une solution d'en haut et une solution d'en bas, une solution de grenouille et une autre d'oiseau. Vous l'aurez imaginé, vous pouvez regarder le monde d'une perspective de grenouille,
žabí perspektiva,
ou d'une perspective d'oiseau,
ptačí perspektiva.
La perspective de la grenouille s'apparente à celle d'un petit enfant. Vous voyez le monde depuis le bas, vous levez donc les yeux. Et au contraire, si vos yeux sont plus haut placés, vous voyez le monde d'une perspective dite d'oiseau,
ptačí perspektiva.
Grenouille ou oiseau, tout le monde peut utiliser les possibilités lexicales vachières pour exprimer étonnamment et accablement.
To je kravina.
C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Voilà ce que peuvent dire les Tchèques pour exprimer leur consternation lorsqu'ils entendent une aberration. À cela près que leur n'importe quoi fait clairement référence à la vache.
Krava.
Un point intéressant à signaler, si toutefois la référence à la vache vous dérange, vous pouvez plus ou moins l'interchanger avec une référence à son petit, le veau.
Vůl.
En vous écriant.
To je volovina. Kravina. Volovina.
Quelle que soit la formule choisie, il s'agit donc d'une information douteuse ou accablante, d'une bêtise en somme. Par exemple, si quelqu'un affirme
« Stihl jsem to za 10 minut »,
soit « Je l'ai fait en 5 minutes », son interlocuteur pourra lui répondre
« To je kravina ».
C'est n'importe quoi. Dans ce cas précis, cette
« kravina »
exprime le doute quant à la véracité de l'information énoncée. Autre exemple
« Tady postavíme nádraží ».
Ici, on construira une gare.
« To je volovina.
C'est n'importe quoi. Dans ce cas, cette
volovina
exprime, elle, la consternation face à une idée saugrenue ou mauvaise. À vous maintenant d'utiliser à votre guise les très pratiques
kravena
et
volovina.
Nombreuses sont les occasions possibles. Et si toutefois vous vous lassez, il est possible de faire appel à l'oiseau
ptak
qui lui nous offre la
ptakovina.
Et l'injonction reste similaire avec
to je ptákovina.
Jenom ty a já a na plátně volovina. U chlapíkovi, co dělá u policie a má poslední den do důchodu a celkem si je jistý.
Il y a moyen d'être plus grossier avec les vaches et les vouček.
Kravina
et
volovina
sont en effet des qualificatifs en fin de compte plutôt mignons. L'expression de la surprise ou de l'exaspération peut être exprimée via la vache ou le veau en pointant directement son interlocuteur.
« T'es grave !»
Soit littéralement « Toi la vache !» et
« T'es volé !»
Toi le veau. Célébrissime injonction tchèque. Dans ce cas-là, l'interlocuteur est formellement en question puisqu'il est désigné et les mots « vache »
Krava
ou veau
vůl
sont utilisés au vocatif pour se transformer en
« Krava »
et
« Vole ».
Ceci dit, dans l'usage courant, voire malheureusement très courant de ces injonctions, l'emploi fait rarement réellement référence à la personne en face. Plus que de la comparer véritablement à une vache ou à un veau, il s'agit d'appuyer un propos, d'y mettre une touche d'émotion plutôt exaspérée ou surprise, voire nerveuse ou amusée. Vous l'aurez compris, les injonctions vachières sont multifonctionnelles. Si vous êtes à Prague, tendez donc l'oreille dans les transports en commun. Il n'est pas rare d'entendre un dialogue, surtout s'il s'agit de jeunes hommes, ponctués de plusieurs par minute. Rien de très joli ni de très élégant, soulignons-le, bien au contraire, et inutile de vous préciser que ces injonctions ne sont pas à utiliser en certaines occasions, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Et avant de nous quitter, dernière précision utile, dans des occasions plus officielles, si vous êtes lexicalement bloqué et que seul
kravena, volovena
ou
ptákovina
vous viennent à la bouche, rappelez-vous du plus distingué
nesmysl,
soit un non-sens synonyme utilisable, lui, en toute occasion. Et c'est sur ce conseil que s'achève pour cette fois ce tchèque du bout de la langue. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce courrier, nous évoquerons une femme écrivain tchèque célèbre, ainsi que la rénovation du siège historique de la radio tchèque, ou encore le passé commun des Tchèques, des Slovaques et des Ruthènes. Marie Prat nous pose dans son courriel la question suivante.
Savez-vous si le livre Babička, grand-mère de Božena Němcová, était traduit en français? J'ai bien trouvé ce livre sur des sites de vente en français, mais ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une traduction et je ne saurais le lire en tchéchkina.
Oui, Madame Prat, il s'agit d'une traduction. Ce chef-d'œuvre de la littérature tchèque du XIXe siècle avait été traduit en français par Eurydice Antolin et publié en 2008 aux éditions Zoé dans la collection Les Classiques du Monde. Par ailleurs, Václav Richter a récemment parlé à l'antenne d'une adaptation hors du commun de Babička de Božena Němcová, présentée actuellement au théâtre Studio Ypsilon de Prague. Philippe Marsan de Biganus veut savoir...
Où en sont les travaux dans le bâtiment de la radio tchèque et la rénovation de l'ascenseur? Avez-vous une exposition permanente avec quelques anciens récepteurs?
Demande-t-il. Monsieur Marsan, la rénovation du bâtiment historique de la radio, datant des années 1930 et classé monument national, a été achevée l'année dernière. À noter que le coût de celle-ci, très élevé, a fait débat. Les bureaux de Radio Prague ne se trouvent pas dans ces locaux reconstruits, mais dans le bâtiment adjacent, moderne, qui abrite également les nouveaux studios. Au rez-de-chaussée est installée depuis plusieurs années déjà une exposition permanente de post-radio. Et quant au fameux Paternoster, cet ascenseur en mouvement continu installé dans le bâtiment de la radio en 1929 et qui fonctionne impeccablement jusqu'à nos jours, oui, il a également été rénové avec succès. Sachez qu'il existe dans toute la République tchèque à peine une centaine d'ascenseurs de ce type, dont une vingtaine de Prague. Le Paternoster de la radio tchèque est le plus ancien parmi eux.
zimy, si zamkli dům, na posledky ve sousedů. I růže jsou ukrytý bez listy. Pak se schová do mraku, bez naději opak zázraku. Svět se ve dvou a v obětí líp pochopí. Jenže co se schová, to se postrácí. Jsou zámky otevírací. Noc je ukrývá, den už se nedívá, jak smí. A ráno jim odletí. Chvíli můžou spát tam, kde se nechce nikdo vtát, kde není nutný říkat víc než nic. Pak přiloží do kamen, ruku v ruce půjdou ven, svět ten už je nechytí. Co se schová, to se postrácí. Proto jsou zámky otevírací. Noc je ukrývá, den už se nedívá. Slova spoutaná, sněním večkaná. Chodí po špičkách a den se nedívá, jak spí.
Jean-François Mel, qui écoute fidèlement Radio Prague à Ars-sur-Moselle, nous demande si
le ruthénien a encore beaucoup parlé en République tchèque.
Monsieur Mel, le ruthénien, vous ne l'entendrez presque jamais en République tchèque, mais en revanche, il est parlé au sein de la minorité ruthène dans la région de Prešov, en Slovaquie orientale. Pour rappel, la Ruthénie subcarpatique, cette bande de territoire située dans l'actuelle Ukraine, près de la frontière avec la Slovaquie, fut d'abord rattachée en 1919 à la Tchécoslovaquie, puis incorporée en 1945 à l'URSS. Enfin, lors du recensement de la population tchèque en 2001, quelques 1100 habitants du pays déclaraient leur appartenance à la nationalité ruthène. Un grand bonjour à notre auditeur africain Henri Gustave Baudget. Il nous écrit.
Je souhaite que votre radio continue à diffuser en français quand l'anglais n'est pas la langue de tout le monde. J'étais un auditeur fidèle de Tia Salé en Côte d'Ivoire, mais j'ai dû arrêter l'écoute pendant un certain temps. Maintenant, je vis dans la capitale, j'étudie à la fac et je continue à vous écouter.
Merci à ceux qui viennent de nous faire parvenir leur rapport d'écoute, parmi eux Vincent Mutaleb Bey de la République démocratique du Congo, Mohamed Goumidi d'Algérie, Osamu Aikawa de Japon, Roger Roussel du Canada, Maurice Etriard, Christian Guibaudeau et Christian Canoin de France. Enfin, nous saluons Jean-Pierre Ron du Radio DX Club d'Auvergne. Il nous suggère dans son courriel de diffuser ce samedi 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la langue française, cette chanson archiconnue de Charles Trenet. Avec plaisir, Monsieur Pierre Ron. Très bonne semaine à tous les auditeurs de Radio Prague. À la prochaine.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.